c'est l'heure de chute, on écoute la télé. Votre talk show radio sur Kaolin FM avec Alain Jeanne.
Chut, on écoute la télé avec votre magasin But de Saint-Thierry et la Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration et pour tout projet de cuisine. L'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges à Saint-Thierry et la Perche.
Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Chute en écoute la télé l'hebdo sur Kaolin où vous nous écoutez chaque lundi à 14h et 19h par exemple et bien du côté de Saint-Thierry-la-Perche sur le 88.4 ou à Rochechouart sur le 88.9. Alors pendant une heure on va passer bien en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors ça tombe bien, tout de suite le sommaire de notre émission.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio.
Et évidemment, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro inédit de Chut, on écoute la télé avec un sommaire aujourd'hui, je peux vous dire, qui va vous faire plaisir. J'en suis sûr, on va se remémorer un peu 16 ans en arrière et revenir sur la Starac 4. Toute l'équipe, tous les élèves de la Starac 4 viennent de sortir un album, Restons Amis, vendredi dernier dans les bacs. Et puis évidemment, on n'a pas oublié Lucie Bernardoni et Mathieu Johan qui étaient des élèves qu'on finit d'ailleurs dans le carré des finalistes. Et tous les deux donc sont les instigateurs notamment de cet album hommage à Grégory Lemarchal. On va en parler évidemment avec Mathieu et Lucie qui seront nos invités dans un tout petit instant. Et on va parler aussi sortie cinéma avec un documentaire Cyril contre Goliath. Thomas Borneau et Cyril Montana seront nos invités à ne pas manquer bien évidemment. Nous aurons le plaisir également de recevoir aujourd'hui Pierre-Jean Chalençon. Il va tout nous dire sur son départ d'affaires conclues, sur ses projets. Que devient-il? Il nous dira tout. Et puis en fin d'émission, je sais que ça va vous faire plaisir messieurs, puisque j'aurai le plaisir de terminer cette émission avec Clara Morgan, disant que j'attendais ce moment et elle sera là avec nous dans l'émission. On parlera évidemment de ses projets, de ses reconversions et puis de son cabaret, bien évidemment. Clara Morgan, notre invitée en fin d'émission, un événement à ne pas manquer. Mais tout de suite, avant d'accueillir Mathieu Johan et Lucie Bernardoni, voici tout de suite les audiences de la semaine dernière. Un petit point tout de suite.
Les tops et flops d'audience.
Et dans les audiences de la semaine dernière, on commence par lundi, la série Laetitia qui arrive en tête des audiences avec 3 535 000 téléspectateurs pour 17,9% de part de marché. L'amour est dans le pré juste derrière avec 15,4% du public et 3 272 000 téléspectateurs. La saison 10 de Clem est toujours à la traîne avec seulement 2 800 000 téléspectateurs et 13,5% du public. Secret d'Histoire s'en sort pas trop mal avec 10,8% de part de marché et 2 343 000 téléspectateurs. Et puis il y avait mardi sur TF1 Good Doctor, le grand retour qui a attiré quand même 3 817 000 téléspectateurs, mais c'est à couteau tiré avec Alexandra L sur France 3, 3 653 000 téléspectateurs pour 16,9% de part de marché. L'audience de Tout le monde joue en cuisine présentée par Nagui faible avec seulement 1 807 000 téléspectateurs et 9,5% de part de marché. Et Un homme ordinaire sur M6 termine dans l'indifférence générale avec seulement 1 623 000 téléspectateurs et 8% de part de marché. Soirée à couteau tiré entre The Resident et Alex Hugo mercredi sur TF1 et France 2, c'était le match. Et puis c'est Grand Hôtel qui arrive bien sûr sans surprise en tête des audiences le final jeudi sur TF1 et vendredi là encore match serré entre Koh-Lanta et Candice Renoir pour les audiences. Voilà, on peut dire que ça a été une semaine mouvementée pour TF1 notamment.
L'album de la semaine.
Allez, notre album coup de cœur, on vous l'a dit déjà, un vendredi, c'était notre album dans les bacs. Et bien aujourd'hui, lundi 28 septembre, ça y est, il est à vous cet album. Et c'est un album vendu au profit de l'association Grégory Lemarchal. Comme vous le savez, notre émission est toujours là pour soutenir cette association. Et ça tombe bien parce que cet album, c'est un peu Mathieu Johan, l'instigateur de cet album. Et justement, il est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis, tu n'es pas venue seule, puisqu'on a également Lucie Bernardoni qui est avec nous. Bonjour, Lucie.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que Lucie, on peut pas oublier un moment pareil quand tu te retrouves face à Grégory sur scène pendant cette finale. Votre regard, avec tellement d'amour entre vous, tellement de choses qui se sont dégagées, qu'aujourd'hui, honnêtement, 16 ans plus tard, on n'a pas pu oublier un moment pareil.
Bah c'est gentil et moi, je l'oublie pas non plus. Et c'est vrai que ça reste intemporel, cette finale.
Mathieu, comment est né ce projet de cet album Restons Amis, hommage à Grégory Lemarchal? Comment t'as eu cette idée? Raconte-nous.
Bah, ça faisait un moment qu'on se disait avec les camarades de la Terre à 4 qu'il fallait qu'on réenregistre un album. On en avait très très envie. Et puis, il y a 3 ans, quand on s'est retrouvés à l'occasion des 10 ans de la disparition de Grégory sur TF1, il y a eu une émission directe présentée par Nikos. On a été invités sur ce Prime et dans les loges, on s'est dit que ça pouvait être une belle idée. Et donc, on a pris le chemin des studios il y a 1 an et demi. On a enregistré un premier single, qui est le single qui s'appelle Restons Amis. Et puis, 6 mois plus tard, j'ai rappelé tous les potes en disant, ça suffit pas, il faut absolument qu'on fasse un album. On a plein de choses à raconter, à partager avec les gens. Il faut qu'on raconte notre histoire et qu'on rende hommage à Grégory dans tout un album. Et l'histoire a commencé comme ça.
Lucie, toi, à ce moment-là, quand Mathieu te l'a proposé, tu t'es dit quoi?
Quand Mathieu m'a proposé ça, je crois me souvenir, et il me coupera si je dis des bêtises, que j'ai dû peut-être mettre 2 secondes ou 3 secondes pour dire oui. Et c'était parti parce que je savais que Mathieu le faisait pour de très jolies raisons et que ça faisait longtemps qu'il y pensait et qu'il avait envie de le mettre en œuvre. Bien, d'une très belle manière et que ça soit très bien fait.
Mathieu, est-ce qu'il y en a qui ont été difficiles à convaincre ou pas du tout?
Non, tout le monde a participé vraiment avec beaucoup de sincérité et d'immédiateté. Ça a été dingue parce que je crois qu'on se manque beaucoup 16 ans plus tard. Ça fait 16 ans qu'on a partagé cette aventure ensemble, 16 ans qu'on nous en parle tous les jours, qu'on nous dit qu'on a eu beaucoup de chance de croiser la route de Grégory Lemarchal. Et que donc, pour les gens qui ont suivi cette émission, c'est une suite logique. Pour ceux qui n'ont pas suivi, peut-être moins. Mais en tout cas, notre histoire est belle. Elle a été entachée par la disparition de Grégory. Ça a été très violent pour les spectateurs. Ça a été très violent pour nous, ses potes. Mais on avait très envie de faire cet album au profit de l'association. Je tiens d'ailleurs à dire que tout le monde est venu simplement, bénévolement, et que personne ne gagnera 1 centime sur ce projet. Chaque album permettra de reverser environ 5 € à l'association. Imaginez si on en vend 50, 100, 200 000. Ça peut être fou et ça peut vraiment permettre à l'association de mener à bien ses projets.
Oui, c'est sûr, c'est un peu une promesse, j'imagine, parce que on pourrait peut-être penser que ça peut être une charge à un moment donné émotionnelle, que ça soit pour toi, pour Lucie ou pour tous les autres élèves, mais je crois que voilà, il y a une parole certainement que vous avez donnée à Grégory, qui n'est absolument pas question de trahir, et aujourd'hui vous vous battrez jusqu'au bout pour l'association et pour que la maladie soit connue et reconnue.
Exactement.
Oui, exactement, on a très envie que l'association puisse mener ses projets. Le courage de Pierre et Laurence Lemarchal et de Leslie, la sœur de Grégory, est remarquable. Ce sont des gens qui sont absolument combatifs, absolument mobilisés au quotidien pour venir en aide aux familles, aux malades de la muco. Enfin, quand on connaît ces gens-là, quand on a la chance d'avoir croisé Grégory, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que les aider? Il me semble que ça fait partie de nos vies, de nos missions. On va vraiment, vraiment, vraiment se bagarrer pour que cette histoire continue à exister et puis tout en que la MUCO nous enlèvera des gens qu'on aime, on viendra en aide à l'association, on viendra soutenir les parents et leur association Grégory Lemarchal. C'est notre devoir aujourd'hui.
Alors ça fait super plaisir évidemment d'avoir de vos nouvelles, parce que vous êtes une saison emblématique, la saison 4. Lucie, tu deviens quoi? Tu fais quoi aujourd'hui? Raconte-nous un petit peu.
Alors bah écoute, aujourd'hui moi j'ai la chance de pouvoir écrire des chansons pour plusieurs artistes et de pouvoir écrire des chansons tout court, et ce qui est pas forcément simple parce que pas mal de temps à faire lire mes textes et je suis assez heureuse de voir qu'on commence à me faire confiance et c'est quelque chose qui me passionne et qui me passionnait même avant de chanter. Alors oui, je continuerai à chanter, mais c'est quelque chose qui me fait tout entière, l'écriture.
Eh bien, on espère te revoir aussi sur le devant de la scène, hein, j'espère en tout cas, te revoir
plaisir,
chanter aussi.
Avec plaisir, et avec mon petit Mathieu, avec mon grand Mathieu aussi.
Exactement. Alors Mathieu, et toi, quels sont tes projets? Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais de beau? Raconte-nous.
Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'être devenu directeur de collection pour quelques maisons d'édition parisiennes, de grandes maisons d'édition, et de faire, je croise des doigts pour que ça continue, je touche du bois au moment où je vous parle, de faire des livres qui fonctionnent fort avec des gens que j'admire. En ce moment, par exemple, j'ai publié le Harper Collins, le livre de Paul Elkarat. Paul Elkarat, c'est cet autiste qui a participé à l'émission de Jean-Luc Reichmann.
Au 12 coups de midi, oui.
Au 12 coups de midi. Et Paul est, par exemple, 8e meilleure vente en France de livres. Et donc, je fais comme ça. Je publie des docs, des témoignages, qu'on appelle des docs dans le domaine des livres. J'ai publié le livre d'Alison Wheeler de Quotidien. J'ai publié le livre Ma pâtisserie en famille de Christophe Michalak, le livre des souvenirs de Pierre Billon, qui était le meilleur pote de Johnny. Donc, je fais ça. Ça fait vraiment 80% de mon temps. Et puis, je suis aussi élu en Normandie. Je suis élu local. Je suis adjoint au maire en charge de la culture à Saint-Lô, dans la Manche. Et je suis conseiller départemental aussi. Voilà. Et je suis surtout papa de deux merveilleux garçons, Louis et Marin, que j'aime par-dessus tout, vous l'imaginez bien.
Eh bien, moi, je vous propose qu'on écoute tout de suite Restons Amis. C'est tout de suite le premier extrait de cet album. C'est parti.
Reviens avant que l'on se perde de vue ou d'imprévu, avant que tout s'efface. Reviens et restons encore fidèles, le temps que se détache toute ma peau de la tienne, que disparaisse ton ombre. Restons amis, le temps que plus rien ne fasse mal, le temps de se voir sous un jour différent. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages, sans rien détruire du beau qui nous attend. On aura tout à y gagner sous un jour différent. Restons amis. Reviens pour les soirs d'amertume, les petites blessures quand rien n'a plus de sens. Reviens et reste à proximité pour partager les rires et les fragilités qu'aucun ne comprendrait. Restons amis, le temps que plus rien ne fasse mal, le temps de se voir sous un jour différent. Restons amis, à l'aube de faire ses bagages, se prendre au jeu, on ne sait jamais vraiment ce qui pourrait nous arriver sous un jour différent. Restons amis.
Continue évidemment à parler de cet album hommage. Eh bien oui, hommage à Grégory Lemarchal. Restons amis avec Mathieu Joanne et Lucie Bernardoni. Alors surtout, ne bougez pas, on revient dans un instant. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le rendez-vous des stars, C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Et de retour pour notre spécial Restons Amis, hommage à Grégory Le Marchal. Je vous rappelle que l'album est sorti dans les bacs vendredi, que tous les fonds, bien sûr, sont reversés à l'association Grégory Le Marchal. Donc, encore une fois, voilà, c'est important pour la recherche contre la mucoviscidose. Beaucoup de choses ont été faites depuis la disparition de Grégory, un allongement de l'espérance de vie, par exemple, qui était absolument pas espéré il y a encore 15 ans. Et aujourd'hui, voilà, il apporte beaucoup et on est là, évidemment, pour soutenir cette initiative de la part des élèves de la Starac 4, une promotion qu'on n'est pas prêt d'oublier. Alors dans cet album, Lucie, il y a un titre inédit qui s'appelle La Marelle, et je crois que c'est toi qui l'as écrit.
C'est Mathieu qui a eu la gentillesse de m'appeler pour me proposer d'écrire la chanson inédite de l'album, puisque l'album est composé de 10 titres, dont un titre inédit. Et c'est vrai que lorsque Mathieu m'a téléphoné pour me proposer d'écrire cette chanson-là, qui raconterait, entre guillemets, notre histoire et avec un message assez universel, j'ai eu beaucoup de mal à la commencer. Ça a été assez compliqué et au bout de quelques jours, enfin, m'est venue cette idée d'une marelle avec des termes enfantins pour dire finalement des choses assez difficiles qui nous relient tous avec ce que nous avons vécu et qui relient beaucoup de personnes et qui peuvent parler à je l'espère, beaucoup de personnes.
Mathieu, quand tu as fait cet album, il y a des reprises, on y trouve beaucoup de choses dans cet album, évidemment le titre de Grégory Restons Amis, mais on y trouve pas mal de reprises aussi, hein, d'autres chanteurs. Hein.
Cet album, c'était une façon pour nous de raconter notre histoire à la Starac, notre parcours, ce qu'on a vécu, et de mettre en avant les valeurs que l'on souhaite véhiculer. Le souvenir, l'amitié, l'amour, le partage, le respect, c'est des choses qui sont vraiment des valeurs importantes pour nous. Et à travers le répertoire d'artistes qui sont venus sur le plateau, Véronique Sanson, Calogero, Jean-Jacques Goldman, Morane et d'autres, on raconte un peu dans cet album notre histoire. On rend aussi hommage à Grégory Le Marchal, qui vient d'en parler avec cette chanson inédite, qui est absolument bouleversante. C'est vraiment la claque de l'album, cette chanson. Moi, quand j'ai demandé à Lucie d'écrire ce titre, je savais qu'il n'y avait qu'elle pour écrire un texte aussi fort, aussi puissant. Elle est très modeste, Lucie, mais comment cette chanson renverse ceux qui l'entendent. Elle est très puissante, elle est très belle. Je suis vraiment très, très heureux que Lucie en soit l'auteur. Elle qui écrit pour Slimane, pour Lilian Renaud, pour d'autres gens. Et avec elle, pour écrire cette chanson, elle était très proche de Grégory pendant l'émission. Et Lucie a vraiment su raconter notre ressenti, ce qu'on a envie de crier à Grégory. C'est dur, on se sent un peu orphelin depuis qu'il est parti, Grégory. C'est dur de vivre sans lui, d'avancer sans lui, de faire cet album sans lui. On espère que les gens l'écouteront, cet album Restons Amis, parce que vraiment, ceux qui ont aimé nous suivre à l'époque, ils étaient près de 10 millions à suivre l'émission chaque vendredi. On espère qu'ils seront allés aussi nombreux à l'écouter.
Alors, ça fait 20 ans que la Starac a débarqué bientôt. Ça fera 20 ans l'année prochaine, en 2021. Je sais qu'il y a des choses qui se trament. Un retour de l'émission, un retour des anciens qui devraient venir faire des clins d'œil. Est-ce que vous avez été approchés un peu dans ce sens, tous les deux, Lucie ?
Alors, oui et non. Je ne saurais pas vous répondre. En fait, on va garder le secret. Hein. On va garder le secret. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se trame.
Et auquel vous devriez participer quand même, Lucie.
Auquel on devrait participer.
Ah, c'est une bonne nouvelle. Mathieu, toi aussi ?
Oui. Alors, les gens, ce que je peux vous dire, sans rien dévoiler, sans ajouter grand-chose à ce que vient de dire Lucie, ce n'est pas le retour de l'émission. C'est une émission qui a fêté les 20 ans de la Starac. Pour l'instant, en tout cas, on en est là.
C'est une émission anniversaire qui se prépare, en tout cas.
C'est une émission anniversaire.
Oh bah si, ils balancent tout aussi.
Mais nous, en tout cas, voilà, on va vivre cette émission. Voilà, j'espère en tout cas avec vous, vous serez de retour pour cette belle aventure. Alors, autre chose aussi, le 7 septembre dernier, ça a été un des cartons de la rentrée. Pourquoi je vis ? Lucie, tu as été incarnée par une actrice. Comment t'as vécu la diffusion ? Comment t'as vécu ce film, toi ?
Alors déjà, elle s'appelle Ilona Bachelier, c'est une super jeune comédienne, et Michael Lumière, donc qui lui interprète magnifiquement Grégory. Je pense qu'on l'a dit, mais on le dira.
Ah, il est exceptionnel, Michael.
Voilà, ça a été une diffusion compliquée. Ça, c'est quelque chose qui est difficile à regarder, en ayant vécu une partie de sa vie à ses côtés, notamment au château. En revanche, c'est quelque chose qui a été important. C'est un biopic qui a permis de remettre une certaine lumière sur la mucoviscidose, sur ce qu'est la mucoviscidose, sur le combat qu'est la mucoviscidose, autant pour les enfants qui l'ont que pour leur famille et leurs proches, et aussi le quotidien des malades et la force qui en découle par rapport à Grégory qui, lui, avait une rage de vivre absolument
incroyable.
Intense, incroyable, et qui a donné de la force à beaucoup d'autres gamins et adultes. Donc le message était très important pour ça, selon moi, et le message est passé pour que les gens comprennent et aident à combattre cette maladie avec des dons, du temps, les bénévoles qui travaillent énormément aussi. Et c'est vrai que c'était important de mettre en lumière sa vie, autant pour sa rage, sa force, que pour ce qu'il a vécu et le combat qu'il menait aussi en coulisses.
Mathieu, pour toi, comment tu l'as vécu, la diffusion ?
Moi, je suis toujours très heureux quand on parle de Grégory. Tout ce qui permettra à l'association de gagner de l'argent, tout ce qui permettra de faire perdurer le souvenir de Grégory, de montrer à quel point il était unique et immense, moi, je suis très heureux de ça. Et il faut que ça continue. Je suis sûr que ça va permettre aussi à l'association de faire avancer les projets, la recherche contre la mucoviscidose, pour la mucoviscidose. Je suis, moi, toujours très ému qu'on parle de Grégory comme ça, et je me rends surtout à chaque fois compte de la chance que j'ai eu de rencontrer ce garçon, qui restera une des plus belles rencontres de ma vie.
Oui, j'imagine que ça doit marquer des choses comme ça. Ça doit être assez bouleversant d'avoir vécu des choses pareilles. Et je crois que de là-haut, il a conscience de la chance qu'il a d'avoir des amis comme vous aussi. Voilà. Et ça, je tiens à vous le dire parce que moi, j'ai eu l'occasion de vous croiser il y a 6 ans sur l'association Grégory Le Marchal et sur une manifestation. Et voilà, vous comptez rien, vous comptez pas votre temps, vous comptez pas vos heures. Et vraiment, vous êtes fidèle à la promesse que vous lui avez faite. Et voilà, vraiment bravo à tous les élèves de la Starac 4 pour votre engagement auprès de Pierre. Et ce très bel album qui vient de sortir dans le commerce qui s'appelle Restons Amis, hommage à Grégory Le Marchal. On va s'écouter Amarelle.
Merci beaucoup.
Qu'est-ce que vous en pensez, Lucie, l'Amarelle, ça serait bien qu'on se l'écoute maintenant.
Moi, je suis entièrement d'accord.
Et toi, Mathieu, pareil ?
Évidemment, mais là, il faut que les gens qui écoutent arrêtent tout et se posent et se disent, allez, on fait une pause, ça dure 3 minutes 30. Écoutez ce texte sublime de Lucie Bernardoni, c'est puissant et souvenez-vous de Grégory.
Exactement. L'Amarelle, on l'écoute tout de suite dans Chut, on écoute la télé. Merci, Lucie.
Mais merci à toi, merci.
Et merci Mathieu. Et puis merci, au plaisir de vous croiser très rapidement, bien sûr. À très vite, les amis.
À bientôt. Merci.
Quand on s'aime pour de vrai, on se quitte pour de faux. Loin des yeux, près des peurs. On était frères et sœurs.
Ou amour et amant, quand on s'aime aussi fort, on ne sait pas s'aimer, c'est là qu'on aime vraiment.
Comme des gosses un peu gauches qui jouent à la marelle, des envies plein les poches jusqu'à la case. Ciel, jusqu'à la case, ciel.
On était des petits cons, on bouffait l'insouciance. Dans nos cœurs de coton, c'était toujours dimanche.
C'était toujours dimanche.
Quel putain d'égoïste. On peut être à 20 ans. On sait que la mort existe. Mais pas lui. Pas maintenant.
Mais pas lui. Pas maintenant. Alors on n'y croit pas. Puisqu'un jour, un matin, j'ai raison, tu verras. Il saluera de loin.
Il saluera de loin.
En riant comme on crève de savoir qu'on se ment. Si tout n'était qu'un rêve, réveillez-moi, attends.
Réveillez-moi, attends. Pour le voir juste un peu, même une seule seconde. Sourire avec ses yeux avant qu'il se refonde.
Dans les dunes de lumière, là on ne sait pas. Un ami qu'on enterre, et c'est tout.
Du cœur qui battent, et quand l'un d'eux s'arrête, c'est un battement de moins pour les autres qui restent.
Pour les autres qui restent, ce battement qui nous lie, ce battement qui sépare les amours, les amis, et l'on s'habille de noir.
Et l'on s'habille de noir.
sale boulot de rendre supportable sa voix à la radio et son nom prononçable.
On a pris 15 ans en un battement d'ailes. On a fait des enfants et notre case au ciel.
Notre grande marraine, dessinée à la craie, restera toujours celle aux 18 cases gravées. Aux 18 cases gravées.
De nos noms insoumis à la vie qui voudrait
nous rendre plus petits, seulement nous on sait. Mais seulement nous on sait.
Que les souvenirs s'animent quand on les fait revivre à travers quelques rimes
d'un immortel livre.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler du documentaire Cyril contre Goliath qui sort au cinéma. C'est rare de voir des documentaires sortir au cinéma quand même, malgré tout. Et on va en parler eh bien, avec ces deux réalisateurs, Thomas Borneau et Cyril Montana, qui sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Alors en fait, juste, je ne suis pas réalisateur, c'est Thomas le réalisateur, parce que c'est vrai que ça peut prêter à confusion. C'est vrai qu'on l'a co-écrit et coproduit ensemble, mais c'est bel et bien lui le réalisateur. Voilà. Et voilà.
Remettons à César ce qui est à César.
Exactement, et c'est un excellent réalisateur, donc il faut pas oublier de le dire.
Exactement. Cyril contre Goliath, qui c'est qui veut nous raconter un peu l'histoire de ce village de la Coste, ouais. Qui est un village quand même particulier, c'est une histoire assez méconnue, ouais. Où Pierre Cardin a quasiment tout racheté dans ce village.
En fait, l'idée c'est qu'il y a, la Coste est un village médiéval perché à flanc de colline à 40 km d'Avignon, avec le château du Marquis de Sade qui le surplombe. Et en fait, il se trouve qu'il y a 20 ans, le couturier Pierre Cardin est arrivé et a donc commencé par racheter ce château en ruine pour le rénover, ce qu'il a plutôt bien fait, j'ai envie de dire. Et ensuite, il s'est mis à acheter une maison, deux maisons, trois maisons, bon, pour lui, son personnel. Enfin voilà, on voit un petit peu le train de vie qu'il peut avoir puisqu'il est milliardaire. Et il s'est mis à en acheter, mais il ne s'est pas arrêté, il en a acheté 10, 20, 30, 40, jusqu'à 47. Toutes les boutiques du village, de la petite rue principale qui s'appelle la rue Basse, et 50 hectares de terre. Et pour ne rien en faire, c'est-à-dire que les maisons sont vides, les magasins exposent des meubles de sa collection personnelle éclairés 24/24 sans qu'on puisse même rentrer ou visiter, donc voilà, donc c'est assez complètement, c'est vrai que le truc est dingue, et du coup il se trouve que c'est le village de mon enfance, voilà, et donc ça m'a posé un petit problème. L'histoire du film, c'est l'histoire de la rencontre entre Thomas et moi, et que je suis allé voir en tant que réalisateur, en lui demandant de faire un documentaire sur le village, mais pas en me mettant moi en scène. Mais lui, il avait sa petite idée derrière la tête, et donc il pourra vous expliquer pourquoi. Il a décidé de me mettre en scène dans le film, quoi. En fait, c'est ça.
C'est pour ça que ça s'appelle, du coup, Cyril contre Goliath.
Exactement. Les deux protagonistes, Cyril Montana et Goliath, qui est donc Pierre Cardin, ce milliardaire dont Cyril vient de parler.
Thomas, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire parler de ce village? Ce village-musée, en quelque sorte?
Quand Cyril est venu me chercher, ça m'a intrigué. Je me suis dit, c'est dingue, parce que... Déjà, il y avait une histoire incroyable et très très singulière dans le village. Les surréalistes sont venus sur les traces du Marquis de Sade. Donc on a René Char, Breton, Man Ray, Picasso, Cartier-Bresson. Donc il y a une histoire vraiment très très forte. Énormément d'artistes sont venus dans les années 50 dans ce village sans aucune prétention, se mêlant aux paysans, aux carriers de pierre. Donc il y a eu une petite utopie réalisée que Cardin a commencé à perturber. Et un écosystème qu'il a commencé à détruire en rachetant toutes ses maisons. Ça m'a vraiment interrogé. Et surtout, Cyril me disait, oui, il faut faire quelque chose, il faut empêcher Cardin de continuer. Je me suis dit, il s'attaque à la propriété privée. Donc vraiment, c'est peine perdue. Je me suis dit, il va dans le mur, quoi. C'est assez dingue. Mais il y avait quelque chose chez lui d'une forme de rage. Il était vraiment très, très énervé par cette situation. Et il avait envie d'en découdre. Et il m'a fait penser vraiment à... Enfin, j'ai repensé à Don Quichotte, quoi. Je me suis dit, il y a quelque chose de Don Quichottesque dans sa démarche. Et d'un peu candide, mais c'est... Voilà, je me suis dit, ça pourrait être un super personnage. Et je suis allé là-bas et j'ai rencontré les villageois. Et une personne, un jour, a dit à Cyril, « Cyril, tu as un petit arbre qui cherche ses racines. » Et là, ça a fait un déclic dans ma tête. Donc effectivement, je l'ai poussé un peu devant la caméra. Je me suis dit, il faut que ça soit le protagoniste et que son engagement soit le moteur en fait, de ce film.
Le village de la Coste, dans le Luberon, aujourd'hui, il y a une mairie, il y a un maire, enfin comment ça se passe?
Oui, il y a un maire, il y a 400 personnes qui y vivent. Il se trouve que c'est marrant parce que quand on parle de métaphore du monde moderne sur cette mainmise, en fait, clairement néolibéral, c'est-à-dire aucun frein au marché, c'est-à-dire on achète, on vend ce qu'on veut sans qu'il y ait d'organes de régulation pour les populations, pour les territoires. Ce village, en fait, continue à vivre, ouais. Mais ce que je dis, c'est que moi, il y a 400 habitants et vous avez tout le cœur du village qui est complètement gelé, donc par
d'accord, donc là, on peut pas y toucher.
Bah, en fait, c'est chez lui, donc il a 50 maisons, toutes les boutiques, ouais. Il en fait ce qu'il veut et il continue à en faire ce qu'il veut. Ça, c'est une chose. Il y a une mairie, bien sûr qu'il y a une mairie, mais ce qui est assez amusant, enfin, si on peut appeler ça amusant, c'est qu'en fait, tous les villageois vivent maintenant à 2 km. Du village, enfin 300, allez, il y a 50-60 personnes qui vivent dans le village et les 350 autres vivent à 1,5 km. Donc on est dans le cas, dans la construction même d'une. Comme dans les métropoles, c'est-à-dire que ceux qui vivent au centre-ville sont soit ceux qui ont hérité, soit ceux qui ont des ronds, et le reste ne peuvent plus habiter, et donc ils vivent, ouais, dans un banlieue, donc c'est la banlieue. Donc c'est presque une blague en disant, mais est-ce qu'on va faire un métro entre Lacoste et sa banlieue ? Et cette métaphore du monde moderne, voilà, elle s'inscrit aussi là-dedans, dans la manière dont maintenant se construit ce village, et c'est assez incroyable d'ailleurs.
Et c'est tout ça qui va être raconté évidemment dans ce film. Est-ce qu'il y a eu des moments forts dans ce tournage, des rencontres particulières qui vous ont marqué, tous les deux ?
Ma rencontre particulière, c'est la rencontre avec Thomas Borneau, parce qu'on a fait ce film sans argent. On a fait ce film pendant 5 ans, et qu'il faut tenir le coup pendant tout ce temps-là, et qu'on a un générique qui est long comme l'avant-bras, mais ce sont que des bénévoles, que des gens qui nous ont aidés. On a fait juste un petit kiss-kiss-bang-bang pour une somme très modique, et donc en fait la rencontre c'est avec Thomas, et que Thomas comme ça s'investisse autant, et lui, parce que c'est vrai qu'on parle de mon engagement dans le film pendant 5 ans pour tenter d'essayer de faire changer Cardin d'avis, mais il y a l'engagement d'un réalisateur derrière qui sacrifie tout pour aller jusqu'au bout de ce film, quoi, qui finalement me rejoint dans mon engagement.
Thomas, est-ce qu'il y a un moment particulier, un moment fort pendant le tournage qui est intervenu ?
Oui, oui, il y a énormément de moments forts, mais il y en a un en particulier, c'est la rencontre avec Rajagopal. Rajagopal, c'est un disciple de Gandhi, que Cyril, qu'on avait vu lors d'un forum où on présentait l'idée du film, parce que le film n'était pas encore là, et où Cyril racontait en fait le village qui se passait. Donc c'était dans sa démarche. Et là, il était voir Rajagopal, qui fait des marches pour les sans-terre en Inde, des marches à 1 million de personnes. Et il a réussi à avoir une interview, une rencontre, où il était à ce moment-là complètement désemparé, et face à ce mastodonte, cette personne, il lui dit « Je ne sais plus quoi faire, j'ai besoin de vos conseils, aidez-moi ». Et on est face à quelqu'un qui est d'une gentillesse et d'une bonté, qui lui a dit « Faites une marche de Paris à Lacoste, et sur le chemin, toutes les personnes que vous avez rencontrées, parlez du village ».
Comment on peut expliquer justement que cette histoire soit assez méconnue, qu'il n'y ait jamais eu beaucoup de reportages sur ce village, que, je ne vais pas dire, vous soyez premier à fouler cette histoire, mais qu'il n'y ait pas plus de communication là-dessus? Est-ce que c'est une volonté de leur part là-bas à Lacoste ou...
Vous posez une très bonne question. Justement, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu faire quelque chose par rapport au village, parce que M. Cardin a des attachés de presse. M. Cardin communique dans la presse. Alors, il s'est fait un peu allumer une ou deux fois dans les années 2005, 2000, un truc dans le New York Times. Il y a eu un article dans Le Monde un peu, mais le reste du temps, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Donc, on noie le poisson, on fait un festival, et puis on fait oublier tout ça, et puis on se fait passer pour un philanthrope, ce qu'il n'est pas. Parce qu'il n'est plus, s'il l'a été en tout cas. Là, nous, depuis 5 ans, on a vraiment mis en place une stratégie de name and shame. Donc, c'est-à-dire, name and shame, c'est mettre la honte en fait à quelqu'un dans la presse, hein, et aller chercher du tiers, des parrains, pour dire « mais regardez ce qui se passe là-bas, c'est pas possible, c'est inique ».
Il y allait beaucoup là-bas ou pas ?
Il y va toujours beaucoup.
Et il y va toujours ?
Toujours, il était encore là cet été, il a 98 ans, il se porte très bien, il pense, c'est lui qui signe tous les chèques, il a fait un festival encore cet été, donc une voyante lui aurait dit qu'il allait vivre jusqu'à 102 ans.
Bon, en tout cas, si vous pouvez aller voir ce documentaire au cinéma, moi je vous le conseille, sur grand écran en plus, parce qu'il y a des très belles images du village qui ont été filmées. Cyril contre Goliath, c'est l'histoire improbable de ce petit village médiéval qui s'appelle Lacoste dans le Luberon, qui est un lieu de pèlerinage, et notamment donc avec le couturier Pierre Cardin, qui a racheté je ne sais combien de maisons en son centre. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous passez dans le coin là-bas, allez y faire un petit tour. Voilà, pour visiter. Merci à tous les deux d'être venus nous en parler.
Merci. Merci à vous de nous avoir invités.
Et à très bientôt. À très bientôt. Merci Cyril, merci Thomas. On va se quitter avec un petit extrait.
C'est un village qui a toujours été très créatif et de cultures différentes.
Il y avait une vie extraordinaire ici. Il n'y avait pas une personne qui disait « je suis plus important, je suis mieux que toi ».
Qui me procurait de moi-même. Une seule dent dans la bouche.
Toujours dans l'actualité des régions, une histoire étonnante. Un investisseur, par ailleurs grand couturier, rachète des maisons dans le centre du village, mais personne n'y habite et le village semble bien être en train de mourir.
J'ai fait deux bêtises dans ma vie. Deux bêtises Un 17 février. Je me suis mariée un 17 février.
Et t'as vendu ?
Et j'ai vendu, j'ai signé le compromis un 17 février.
Et M. Cardin, lui, est très fort là-dessus, c'est que même si vous voulez pas lui vendre, on vous achète quand même. Hein.
Bon, c'est les petites gens, je vois, j'en ai connu, il y a d'autres brillants, intelligents, mais ils n'ont pas cette envergure que internationale que je possède, ils n'ont pas le même niveau.
Et moi, ça me pose un problème, tout ça. Parce que je suis sacrément attaché à ce village.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, notre invité aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé, c'est Pierre-Jean Chalençon qui est avec nous. Bonjour Pierre-Jean.
Bonjour camarade.
Ça va bien ?
Mais ça va merveilleusement, il fait beau, il fait chaud.
On est bien, franchement, dans notre région, en Nouvelle-Aquitaine.
En Nouvelle-Aquitaine, c'est merveilleux.
Pierre-Jean, je crois que t'es devenu certainement le collectionneur de Napoléon le plus connu et le plus grand collectionneur en France, évidemment, après ce carton dans Affaires conclues, qui a été vraiment l'émission qui t'a fait révéler au grand jour. Hein.
Bah oui, Affaires conclues, faut pas cracher dans la soupe, c'est quand même une émission qui m'a fait connaître du grand public. Même si j'avais fait sur France 2 il y a quelques années une émission qui s'appelait Vos objets ont une histoire avec Charlotte de Turckheim, et que ça fait quand même 15-20 ans que je suis assez régulièrement à la télévision, parce que j'ai fait beaucoup de journal de 20h, de 13h, les 52 sur la une, avec voilà, puis Napoléon. Mais c'est vrai que Affaires conclues m'a révélé et m'a un peu transformé, parce que même maintenant, je suis au-delà de Napoléon, je m'occupe de One Man Show, de livres, de pièces de théâtre, peut-être de téléfilms l'année prochaine, et de d'autres émissions de télé.
Il y a beaucoup de cordes à ton arc qui vont arriver. On va découvrir une chance insolente sur scène à partir de fin octobre.
À partir du 20 octobre, pendant une semaine au Théâtre de la Main d'Or à Lyon.
Ça va tourner dans notre région du coup aussi d'ici juin 2021.
Oui, il y a à peu près 75 dates de prise, ce qui est énorme. Je salue tous les théâtres et les villes qui ont pris ce spectacle parce que ça cartonne. On est un des spectacles les plus demandés pour la saison 2020-21, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous. Donc merci à tous de nous faire confiance. Et puis j'ai un spectacle aussi avec Brassens au début de l'année prochaine qui va être joué à Bobino à la rentrée prochaine, mais qui sera joué en province et l'été prochain dans le sud pour l'anniversaire de la naissance de Brassens et de sa mort. 15 musiciens, jazz, ça va être un truc de folie. Je vais chanter du Brassens.
Et donc même peut-être arriver pour un rôle à la télévision, ça c'est en projet, c'est en pourparlers.
On en parlait il y a quelques semaines, quelques mois. Je serais la vedette, enfin le Pygmalion d'une nouvelle série. On est en train de voir. J'ai rencontré des différents producteurs. On est en train de regarder les scénarios. Mais bon, avec le Covid, tout ça a été un peu arrêté. Ça fait quand même 8 mois qu'on est un peu dans un état bizarre. Et même France 2, il y a eu beaucoup de choses qui étaient prévues avec France 2. Les ponts ne sont absolument pas coupés. J'ai de très bons rapports avec le service public. Et peut-être que je ferai des choses prochainement sur France Télévisions.
Est-ce que tu regrettes ? Il y a des choses que tu regrettes après avoir quitté cette émission emblématique aujourd'hui qui t'a fait connaître, ou tu referais tout pareil à un moment donné ? Tu as envie de dire aussi ce que tu penses à un moment donné ?
Je pense que le succès de cette émission est en grande partie a été fait grâce à votre serviteur. Il faut quand même pas le cacher aujourd'hui. Je vois comme les gens depuis mon départ. Mais ça faisait 3 ans et demi que je faisais cette émission. J'étais fatigué, j'en avais aussi marre. Il y avait un moment où je voulais évoluer. Bon, bah on me donnait pas la chance d'évoluer. J'ai décidé de partir. Voilà, il faut assumer sa vie dans les choses. Moi, je suis un homme de terrain. J'ai mon mot à dire. Je serai toujours comme je suis. Si je changeais, je ne serais plus Pierre-Jean Chalençon. On m'aime, on me prend, on me prend pas. On me prend comme je suis, on me prend pas. Et je pense qu'aujourd'hui, bon, après, on peut faire des erreurs. J'en ai toujours fait. Mais vous savez, je vais vous dire un simple, c'est un peu comme la télé-réalité. Des gens qui ne sont pas forcément connus et du jour au lendemain sont devenus des stars et qui sont retombés dans l'anonymat, il y en a eu beaucoup. Moi, ça fait quand même, j'ai 50 ans. Moi, ça fait 30 ans que je cogite dans le milieu artistique. Donc ça m'amuse beaucoup, j'adore la folie, etc. Mais on n'a pas forcément tous été préparés à cette notoriété sur France Télévisions. Et ça, c'est peut-être un peu le regret que je dirais, c'est que on n'a pas été tellement suivi au niveau de cette notoriété. Et que si on a fait des erreurs par rapport à certains tweets ou certaines photos, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'on n'a peut-être pas été assez bien drivé. Et qu'on nous a laissé un petit peu comme si on était toujours des personnes particulières. Aujourd'hui, je sais que je suis une personnalité, que quand je dis quelque chose, je peux être suivi par du monde. Ça peut faire peur, ça peut aussi intéresser les gens. Mais aujourd'hui, je serais peut-être plus, je tweete beaucoup moins qu'avant. J'ai appris à mes dépens. Mais j'ai toujours ma grande gueule et on m'enlèvera jamais mes propos, ce que je dis, j'assume ce que j'ai fait et j'assume qui je suis.
Pierre-Jean, quels sont les objets qui t'ont le plus marqué que tu as acquéri durant ces années? Est-ce qu'il y en a un ou deux qui ressortent comme ça que tu te souviendras jamais?
Affaire conclue, dans l'émission d'affaires conclues, oui, bah l'objet que j'ai acheté qui me plaît le plus, c'est la pendule en rhinocéros que j'ai acheté il y a 3 ans et demi, qui est un prodige, vraiment une rarissime, enfin pour un objet exceptionnel. Et le dernier objet vraiment que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, c'est le à des records, si ce n'est le record historique d'affaires conclues, c'est le surtout de Tomir en bronze doré qui était un surtout de table pour Napoléon. Alors ça, c'est un objet exceptionnel.
Donc, tu gardes tous les objets. C'est toi la particularité que tu as dans cette émission, c'est tout ce que tu as acheté, c'était vraiment pour ta collection, pour garder, au contraire de certains de tes confrères qui, eux, achetaient ces objets pour les revendre, par exemple.
Moi, c'est d'ailleurs marqué sur mon titre, je suis Pierre-Jean Charlençon, collectionneur. Je ne suis pas marchand. C'est pour ça qu'aussi, moi, cette émission me coûtait de l'argent, parce que bah, le peu qu'on nous rémunérait, bah, je le dépensais, voire beaucoup plus. Et eux, le revendaient, donc ils n'ont pas de soucis. Moi, je ne le revends pas. Donc, j'ai quand même revendu quelques objets l'année dernière, parce que j'avais plus de place, et puis après, à un moment, il faut bien trouver de l'argent pour acheter. Donc, j'ai revendu quelques objets, mais plus de la moitié des objets que j'ai achetés à affaires conclues, ils sont toujours chez moi, je m'en sers, je les utilise, et je ne suis pas marchand. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un capital sympathie, parce que même si vous, les gens, à affaires conclues, vous leur faisiez des grands sourires, comme pourrait faire ma copine Caroline, mes chéris, mes amours, leur intérêt à eux, c'est quand même de payer le moins cher pour faire le plus de bénéfices. Alors que moi, je n'avais aucun intérêt à acheter le moins cher ou plus cher. Quand j'aime l'objet, peu importe le prix.
Quel est le rôle que tu aimerais tenir, alors, justement, à la télévision? Parce que, ben, il y a un trou depuis Louis la Brocante. Donc, est-ce que tu te vois, par exemple, incarner un collectionneur, qui est prêt à tout pour arriver à ses fins, pour obtenir des objets à chaque épisode, par exemple?
J'aimerais assez reprendre un peu un rôle dans ce genre-là, oui, mais peut-être un peu plus fantasque. C'est-à-dire que Louis la Brocante, que j'adore, Victor Lanoux, pour moi, je suis un grand fan, était peut-être un peu trop ours ou bougon. Ça pourrait
être... Pas le même âge, non plus.
Voilà. Ça pourrait être un Louis la Brocante jeune, un peu plus, qui aurait éventuellement un cabaret transformiste à Montmartre. Qui serait un petit peu très gay et qui pourrait résoudre des enquêtes criminelles ou je ne sais quoi. Voilà, j'ai quelques pistes. On en avait parlé avant l'été avec quelques grosses boîtes de prod. On va reprendre ça d'ici la fin de l'année. Bon, je suis pas pressé, mais c'est effectivement, j'aimerais beaucoup me lancer là-dedans.
Livre toujours en vente, hein, bien sûr. On peut en parler aussi.
Toujours. Deux livres. Appelez-moi l'Empereur chez Harper & Collins. Mon autobiographie. Qui a été en tête des ventes pendant le Covid, sur lequel j'étais très fier. Et puis ensuite, Napoléon, la collection, aux éditions EPA, qui est un livre d'art, d'histoire, mais grand public. Et ça, j'en suis très fier, il marche bien. Et donc, je fais des dédicaces un peu dans toute la France. Là, j'ai repris ça parce que à cause du Covid et des grèves, ben, j'ai pas fait beaucoup de dédicaces. Donc, je suis très fier du nombre d'exemplaires vendus. Parce que c'était des livres que je voulais pas chers et grand public. Et merci à tous de m'avoir fait confiance. Ils sont très appréciés. On a eu de très bonnes critiques.
En tout cas, si vous avez dit du côté de Lyon, on pourra te retrouver sur scène fin octobre du 20-26. Voilà. Pour une chance insolente.
Voilà, une chance insolente. Une pièce d'Olivier Lejeune avec Olivier Lejeune, Marie-Hélène Lantini. Enfin, plein d'acteurs extraordinaires. On va beaucoup rigoler et je pense que ça va un peu faire le buzz.
Mais on attend ça avec impatience dans notre région, Nouvelle-Aquitaine. Bien sûr, on va se rencarder pour les dates et tout. Et on va vous dire ça.
On vient à La Rochelle d'ici la fin de l'année.
Merci à toi.
Merci à toi et grosses bises à tous.
Et dans un instant, on termine l'émission avec Clara Morgan. Alors à tout de suite, bougez pas.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite.
On est vraiment bien sans elle.
I just haven't met you yet.
Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. L'invité d'honneur de la semaine.
Ce soir, le programme est chargé. Il va y avoir de la musique, du chant, de la danse, du pole dance, de l'effeuillage burlesque.
Quoi? De l'effeuillage burlesque et tu m'appelles pas?
Allez, programme chargé, cabaret, calendrier de fin d'année, c'est tous les ans, eh bien, le rendez-vous incontournable avec Clara Morgan. Ça fait 10 ans qu'on l'attend dans notre émission. Comme quoi, toutes les bonnes choses savent se faire attendre puisqu'elle est avec nous. Bonjour Clara.
Que c'est bien dit. Bonjour à vous.
Merci d'être avec nous. Clara, il s'est passé tellement de choses en 10 ans. Une belle reconversion de la musique, les calendriers. Il y a eu aussi, eh bien, la partie animatrice télé. Est-ce que tu as utilisé toutes les cordes que tu avais à ton arc ou est-ce qu'il y en a encore que tu as envie de nous faire découvrir?
Il y en a beaucoup que vous ignorez. Et parfois c'est bien, c'est une bonne chose, parfois moins. C'est vrai que d'avoir un peu touché à tout dans les domaines artistiques, bien sûr, c'est ça en fait qui m'a mené tout droit au cabaret. Parce que quand on fait du cabaret, il faut être pas forcément un génie de la présentation, ni de la chanson, ni de l'acrobatie. Mais par contre, il faut savoir un petit peu toucher à tout. Et c'est, je pense, ma spécialité. Donc, je suis maîtresse de cérémonie depuis 4 ans maintenant. J'ai la chance d'avoir une troupe de cabaret fantastique qui me suit partout. La championne d'Europe de pole dance, les feuilleuses burlesques Cléa de Velours, la chanteuse à voix Audrey Hakoun, l'humoriste Martial, des musiciens et d'autres artistes comme ça qui arrivent et repartent. Et j'adore mettre les artistes qui en valent le coup dans la lumière, leur donner l'occasion de se produire sur scène et surtout donner l'occasion au public de les connaître. Donc c'est un bonheur de pouvoir produire ce cabaret.
Alors justement, on pense à tous les cabarets et toutes les difficultés, les mois difficiles qu'ils ont passés. Est-ce que c'est compliqué de repartir sur les routes, de se remettre un petit peu en selle, ou alors c'est vraiment une joie pour tout le monde de pouvoir retrouver enfin un peu le public?
Bah évidemment, et je vous cache pas que pendant tout ce temps, on a travaillé, on n'a pas perdu de temps, donc on a un petit peu étoffé les textes, changé un petit peu les tableaux, et c'est vrai qu'on est extrêmement heureux déjà, un, de se retrouver, mais en plus se retrouver sur scène. La scène, c'est ce qui nous fait tous vibrer, c'est ce qui nous réunit, c'est... Voilà, donc c'est ce qui nous porte. Donc on est très très heureux d'être sur scène. Bien sûr, je fais d'autres choses, mais le cabaret, c'est vraiment ce qui m'a manqué pendant ces derniers mois.
Ça va partir en tournée dans toute la France?
Alors on est le 2 octobre à Orange, le 7 novembre à Nice. On est à Carcassonne aussi début 2021. On a une résidence parisienne au César Palace à Paris, 23 avenue du Maine dans le 15e. Donc là c'est plutôt mensuel puisque c'est tous les mois. Et ça reprend, donc on verra jusqu'à quand, je l'espère pour longtemps. Mais c'est vrai que voilà, on a des dates qu'on est... J'espère ne pas repousser.
Bon, on a des beaux cabarets, tu sais, dans la région en plus, hein, pour venir. Hein, je pense à l'Ange Bleu, évidemment, du côté de Gauriaguet, par exemple, près de Bordeaux.
Justement, on est en contact avec l'Ange Bleu. On a très envie de travailler ensemble depuis un moment. Et puis, le Covid est arrivé et je crois qu'on dit même la Covid. Ça aide pas.
On ne sait plus comment l'appeler en fait, tellement à nous en bon.
C'est ça. Hein? Donc du coup, ça a repoussé un petit peu nos projets, mais on compte bien passer à l'Ange Bleu. Oui.
Ah bah voilà, là on sera là, évidemment. Hein. On va pas rater ça. Hein. Et puis on a des cabarets aussi, un petit cabaret du côté de Mata avec la Castafiore aussi qui pourrait t'accueillir. Mais voilà, on va rester en contact maintenant qu'on se connaît. On va essayer de te faire venir en tout cas dans la région.
C'est une soirée autour du rêve. Et l'idée, effectivement, c'est un cabaret dans lequel on se prend pas la tête. On a envie de voir des étoiles dans les yeux des gens, les faire rêver, les faire passer une bonne soirée. Souvent, les gens viennent en couple. Et l'idée, c'est qu'ils passent aussi une bonne soirée en quittant le cabaret, bien sûr.
J'imagine. Est-ce que tu as des projets en tant qu'animatrice? Est-ce qu'on va te revoir bientôt?
Écoutez, pour l'instant, j'ai mis mes apparitions, on va dire, de chroniqueuse, etc. en stand-by parce que j'ai un projet, effectivement, un pilote qu'on a tourné, dont le thème est l'amour. Je vous en dis pas plus. Mais je crois beaucoup à ce projet, on verra bien. C'est difficile, c'est pas forcément les bons projets qui voient le jour tout le temps. Mais en tout cas, on est force de proposition.
Est-ce qu'il y a des choses qui te plairaient en tant que comédie, dans la comédie? Est-ce qu'il y a des choses qui te plairaient? Incarner peut-être une fliquette, une aventurière, je sais pas moi. Est-ce que t'as des rêves là-dessus?
Alors moi j'aime jouer, donc la police c'est pas la première chose à laquelle j'aurais pensé, mais pourquoi pas? Être comédienne c'est ça, hein, c'est pouvoir jouer des rôles. Mais c'est vrai que mon plus beau rôle, je le joue sur scène en tant que maîtresse de cérémonie, je ne vous le cache pas. J'ai pas mal joué au théâtre aussi, et j'aimerais bien refaire une pièce, un de ces quatre, ouais, c'est quelque chose qui m'attire.
S'il y a une émission de télé à laquelle tu aimerais participer, toi qui as paru dans Les Anges, est-ce que tu as d'autres émissions que tu aimerais participer, genre Pékin Express, Koh-Lanta, je sais pas, des choses où on pousse un petit peu plus le curseur?
J'avais envie de faire Danse avec les stars.
Ça c'est fait. On va revenir sur cette aventure, c'était l'aventure d'après que je voulais revenir. Belle transition, merci Clara.
Non, mais c'était une super aventure. J'ai beaucoup souffert, beaucoup travaillé. J'ai fait 6 primes, dont je suis très fière. J'ai eu un partenaire exemplaire, qui est Maxime de Remez, qui m'a beaucoup soutenue, qui m'a beaucoup tenu la main. C'était vraiment, c'est difficile. Hein. C'est pas quelque chose dont on se remet facilement, en tout cas. Parce que je suis partie 3 mois loin de chez moi, 3 mois loin de ma fille, 3 mois loin de mon mari. C'était intense et je regrette absolument rien. Mais voilà, 6 primes, on va dire que je les ai menées jusqu'au bout. J'ai mené mes chorégraphies aussi loin que je pouvais. C'est-à-dire que je n'ai aucun regret.
Et alors, c'est la danse après, du coup, ça peut t'ouvrir plein de portes à côté, notamment dans le cabaret, mais ça peut t'ouvrir plein de choses.
J'ai fait venir Maxime de Rémès dans mon cabaret, justement, où on a fait une chorégraphie, les gens étaient contents de nous revoir en couple, ouais, c'est vrai.
Ah oui, la classe quand même, Maxime de Rémès. Quel regard tu portes justement sur ce parcours? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu referais exactement la même chose?
Comme toujours, je dis, je ne changerai pas une virgule. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vis les choses de façon très intense. Je me donne au maximum quand j'y suis, plus rien ne compte. Et une fois que c'est fini, je tourne la page.
Et ben voilà, Plage Danse avec les Stars, en tout cas, est tournée. On te retrouve bien sûr avec le calendrier de fin d'année. Le fameux calendrier qui sort toujours fin septembre, début octobre, là, comme ça.
Exactement, c'est dans quelques jours, là, c'est toute fin septembre. On peut le retrouver partout. Fnac, Auchan, Carrefour. Mais voilà,
partout. Tous les bons espaces culturels Leclerc aussi, vous l'aurez.
Voilà, exactement. Chez Leclerc, d'ailleurs, Leclerc, j'apprécie parce que. Que c'est vrai qu'ils semblent apprécier également mon travail vu que je fais beaucoup de dédicaces chez eux.
Et ben voilà, écoute, la porte est ouverte, nous on peut t'en organiser aussi sans aucun problème, te faire venir dans la région. Ça sera en tout cas avec grand plaisir, Clara. Merci à toi d'avoir été avec nous.
Ravi, merci.
Et moi je me souviens d'une petite époque où tu chantais.
Oui, tu chantes toujours, bien sûr.
Et moi j'aimerais bien qu'on réécoute un petit morceau de cette époque où tu chantais. Clara Morgan, c'était ça, parce qu'il y avait aussi il y a eu des albums, il y a eu beaucoup de choses. Et je suis sûr que tu reviendras aussi après ces troisième albums, un quatrième bientôt.
Alors j'ai pas prévu de quatrième album, mais par contre dans mon cabaret je chante beaucoup.
Ah bah voilà.
Donc venez nous voir.
Allez, le cabaret, on vous préviendra évidemment dès que tu passes à l'Ange Bleu. Et puis là on va se réécouter un petit morceau de Clara Morgan en musique.
Prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera donc lundi prochain pour un tout nouveau numéro de Chute, on écoute la télé. Nous aurons le plaisir de recevoir Christophe Favre. Et oui, il joue dans Un si grand soleil le rôle de Soriano père. Et oui, pas toujours aimable hein, d'ailleurs. Hein. Mais vous allez voir, c'est un vrai gentil Christophe. Et en plus, on le retrouvera eh bien, à l'affiche du Crime Parfait qui sera diffusée la semaine prochaine sur France 3. On en parle évidemment avec lui. Et puis nous aurons le plaisir de consacrer une partie de cette émission également à la diffusion du téléfilm de France 2 de l'autre côté, qui sera diffusé le 9 octobre à cette occasion. Eh bien, Tiffaine Davio, François-David Cardonnel et puis Myriam Garbi, la productrice, ils seront tous avec nous pour en parler. Donc, vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer parce qu'il y aura aussi plein d'autres surprises, bien évidemment. Vous vous en doutez.
FM.
Écoutez-vous.
Allez, n'oubliez pas que Chute en écoute la télé, c'est toute la semaine avec La Quotidienne à 8h40, 13h15 et 19h sur Kaolin. Retrouvez également cette émission en podcast sur notre site internet onécoutelatélé.com. Et pour rester connecté avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook et Instagram Chute en écoute la télé. Et téléchargez dès maintenant nos applications pour iPhone et Android. Chute en écoute la télé. Cette émission sera également rediffusée ce soir à 19h. Et je vous retrouve donc également lundi prochain à 14h et 19h pour la grande hebdo. D'ici là, passez une très belle semaine à l'écoute de nos programmes sur Kaolin.
Chut, on écoute la télé. Avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse, un savoir-faire artisanal et des produits nobles pour un goût authentique. Dégustez l'excellence.
Chut, on écoute la télé. Avec votre magasin But de Saint-Thierry-et-la-Perche. Ameublement, literie, électroménager, décoration et pour tout projet de cuisine. L'équipe de projet et conception vous attend. Zone commerciale d'Arfeuil, route de Limoges, à Saint-Thierry-et-la-Perche.